Une collection qui documente la réalité queer des Balkans à l'Oural à la Bibliothèque à livres ouverts de Montréal, du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. Et pour en parler, nous recevons deux jeunes qui sont en stage culturel au Québec sous le parrainage du Centre communautaire LGBTQ+. Il s'agit de Quentin Legrave et de Corentin Bouissette, c'est ça?
Bouissette.
Bouissette. Ah ben, je commence par toi, Corentin. D'abord, bienvenue à l'émission.
Merci.
Et on utilise quel pronom et quel accord?
Alors, c'est il, lui et... il.
D'accord. Et toi, commençons par Quentin, oui?
Alors, pour moi, ce sera également he, him, lui, il.
D'accord. Bon, ben justement, qu'est-ce que c'est que cette collection qui sera donc dévoilée
le
22 mars, mais on sait que le 21 mars, c'est la journée d'élimination de la discrimination raciale. Donc, c'est un peu, ça coïncide. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette collection?
Alors, c'est l'une des premières collections que la bibliothèque a décidé de lancer. Ce n'est pas la première, puisque la bibliothèque a lancé une précédente collection qui s'appelle Émancipasie, qui traitait notamment des difficultés LGBT queer dans la diaspora asiatique. Mm-hmm. Là, on a voulu faire le choix de traiter réellement des pays et non pas de la diaspora. Donc, on a voulu s'interroger à tout ce qui est ce qu'on appelle vulgairement l'Europe de l'Est.
Oui.
Mais du coup, toute une réalité, puisque c'est dans l'actualité, notamment avec la guerre en Ukraine contre la Russie. Mais ce qu'on voulait, c'était dézoomer un petit peu et s'intéresser à tous les différents pays qui ont un héritage communiste, slave, mais qu'éventuellement, ils ont un parcours totalement différent, notamment puisque certains pays sont de l'Union européenne et pas d'autres. On voulait donc arriver à vraiment traiter de tous ces pays et de montrer la disparité qu'il existe entre eux et que l'évolution des droits et des lois n'est pas toujours la même partout en Europe.
Et pourquoi particulièrement cette région-là? Oui, c'est dans l'actualité, mais d'abord, oui, et comment on s'y est pris? Parce que c'est trouver de la littérature queer dans ces pays où c'est pas très bien vu. Pas évident, là.
Tout à fait. Alors, c'est moi qui ai voulu travailler sur cette thématique, puisque j'ai toujours été intéressé de constater que souvent, tout ce qui a héritage communiste, tout le monde a tendance à penser que c'est la même chose et que les pays n'ont pas évolué depuis. J'ai fait des études d'histoire, pour passer un peu.
Oui, d'accord.
Et je trouvais ça très intéressant de montrer que chaque pays a pris un chemin différent. Et donc, pour réussir à trouver des ouvrages, on a beaucoup travaillé avec Le Guélion, qui est une librairie féministe dans le village, et je les remercie encore de leur travail. Ça nous a permis notamment de conjoindre nos recherches. Donc moi, j'ai lu énormément d'ouvrages universitaires pour avoir des ressources. Et on a également tenté d'obtenir des livres qui vraiment venaient de ces régions-là. Mais dans certains cas, on n'a même pas pu les recevoir puisqu'ils étaient imprimés en ouvrage limité.
Oui.
Donc en fait, ils étaient imprimés à la demande.
Et donc, mais là, on est dans un milieu francophone. Ces livres ont été écrits dans leur langue. Ça veut dire quoi? Est-ce que les livres sont en français, dans la langue originale, en anglais?
Principalement, ils sont en anglais.
D'accord.
Ça a été très compliqué de trouver en français, mais en anglais. Beaucoup d'universitaires ont travaillé dans le monde anglo-saxon sur le sujet, là où les Français, dans le domaine universitaire, ne sont pas penchés énormément sur la question du monde queer dans ces régions.
Donc, vous êtes deux stagiaires, vous organisez cette collection. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le Québec? Vas-y, Corentin.
Alors, personnellement, c'était déjà un coup de cœur. Je suis venu étant plus jeune en vacances avec mes parents et j'ai trouvé vraiment le pays magnifique. Et pour le service civique, ça a été aussi un petit coup de chance. J'ai été mis au courant par une amie que ça existait. Et quand j'ai regardé les missions, j'ai directement vu la mission au Canada qui me correspondait parfaitement. C'était un peu comme tomber de nulle part. Mmh. Et au final, c'est plutôt une très bonne expérience.
Le service dont on parle ici, le service civique, ça a remplacé le service militaire en France, si je me rappelle bien. Mais est-ce que c'est obligatoire de faire le service?
Alors, pas du tout, non? Effectivement. Les services civiques, c'est vraiment pour les personnes qui se portent volontaires. Il y en a qui se passent directement en France, il y en a aussi qui se passent au Canada, mais il y en a aussi dans plein d'autres pays, comme au Maroc, en Tunisie, et je pourrais même pas les citer tellement il y en a.
Et toi, Quentin, qu'est-ce qui a décidé de ton choix?
Moi, ça faisait très longtemps que je voulais venir du coup au Canada, au Québec particulièrement. Et j'ai fait mes études notamment sur la question du genre et sur la représentation des minorités sexuelles. Et c'est très développé au Canada, donc j'avais envie de poursuivre dans cette voie. Et j'aime énormément la littérature et ça a été une belle opportunité à la sortie du Covid.
Effectivement, l'identité de genre, les études sur l'identité de genre et les orientations sexuelles, et en fait, tout ce qui est queer... Il me semble que c'est pas aussi... j'en entends moins parler en France. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais est-ce que c'est vraiment moins développé qu'ici?
Oui, vraiment, le monde anglo-saxon s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, là où le monde francophone est beaucoup plus frileux sur ces sujets-là. Mm. Tout ce qui touche l'intimité, tout ce qui est la sexologie, c'est beaucoup plus complexe d'être reconnu et d'avoir des financements. Donc là où tout ce qui est... Bien qu'on est dans une région francophone, ça a plus été développé dans cette partie. Et l'Amérique du Nord a beaucoup plus traité les sujets.
Et toi, Corentin, là, mm-hmm. je ne sais pas demander, tu as étudié en quoi, c'est quoi ta spécialité là, présentement?
Alors, sincèrement, mes études, c'était du commerce. Mm. J'ai appris, on va dire, à gérer une boîte, une entreprise. Et au final, ça revient à pas grand-chose pareil de travailler dans ce milieu-là, dans le communautaire. Et en plus, ça me touchait personnellement parce que c'est un milieu queer. Mm-hmm. Et en France, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment pu, enfin, personnellement, j'ai jamais vraiment pu explorer toutes les possibilités, tous ces côtés-là. Et c'était l'opportunité de venir au Canada.
Qu'est-ce que vous trouvez de différent, juste à part là, ce qu'on vient de dire au niveau des études, mais au niveau de la vie quotidienne? La différence entre être queer en France ou être queer ici au Québec?
Alors, ça peut dépendre des régions en France. Par exemple, le milieu queer à Paris directement est quand même beaucoup plus développé qu'en banlieue. En banlieue, ça passe souvent pour un tabou. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits. Alors que par rapport en tout cas à l'ambiance pour l'instant que j'ai pu voir à Montréal, c'est quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus accepté et avec beaucoup plus de visibilité dans le bon sens du terme.
Oui, parce qu'on voit beaucoup de personnages queer dans les émissions de télévision, sur scène. Toi, de ton côté, Quentin?
Moi, j'ai toujours fréquenté la communauté queer quand j'étais en France. Je ne viens pas de Paris, donc déjà, j'ai pas cet aspect parisien. Je trouve qu'ici, on a un droit à l'indifférence, c'est-à-dire qu'on peut être qui on veut, personne ne vient vous insulter, personne ne vient vous faire des remarques. Il y a une sérénité à se promener dans la rue et à être avec qui on veut, à la différence de la France où vous êtes jugé, insulté, menacé.
Ouais, on ne voit pas ça aussi fréquemment au Québec, mais il me semble que ça existe quand même, ce genre de... Mais c'est peut-être pas aussi ouvertement que ça peut se faire chez vous. Au niveau des organisations, là, vous travaillez pour la bibliothèque à Livre ouvert, des organisations queer, communautaires, vous êtes associatif en France pour... corriger, parce que nous, on parle des milieux communautaires. Est-ce que ça se compare?
Ah oui, quand même assez. Y a quand même alors, c'est rare de trouver, je trouve, autant d'associations communautaires pour autant de domaines différents. Mais oui, le milieu communautaire LGBT en France est quand même assez développé.
Et il y a une bibliothèque qui ressemble à celle-ci. Je sais qu'au centre communautaire... À Paris, il y avait quand même une collection, mais c'était minime. Là. Mais est-ce qu'il y a une bibliothèque comme ça?
Oui, c'était un gros projet qui avait lieu normalement avant, et en fait le Covid l'a freiné, mais ça fait très longtemps qu'à Paris, ils veulent des locaux pour développer les collections. Même à Marseille, ils ont créé des archives littéraires, sauf que du coup, le Covid a totalement ralenti ça. Ouais. Mais c'était un gros projet d'il y a quelques années.
Donc, votre expérience, allez la ramener chez vous pour peut-être créer cette bibliothèque qu'on cherche à faire?
Moi, j'aimerais bien. Je trouve que ce serait une bonne idée de développer ça aussi en France et que tout le monde puisse avoir accès à son patrimoine.
C'est vrai que ce serait idéal.
Et qu'est-ce que vous allez rapporter lorsque vous avez... Je pense que toi, tu retournes plus tôt, hein, ton service a commencé plus tôt.
Tout à fait.
Toi, je pense que c'est cet été que tu retournes.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu penses rapporter, mais à part un petit ami là, quand même, là, mais ouais.
Non, ça, je ne vais pas avoir. Mais
problème d'immigration, c'est compliqué. Tout ça, oui.
Moi, je vais retourner en France que quelques mois puisque j'ai un permis de travail pour revenir.
Ah oui?
Ouais, j'aime vraiment beaucoup la vie ici, donc je vais revenir incessamment sous peu. J'ai juste envie de revoir un peu ma famille. Mm-hmm. Je pense que je vais avoir vraiment une sérénité, je vais répéter ce mot beaucoup, mais cette sensation que je peux être qui je veux et je ne vais pas me sentir jugé, donc une certaine confiance en moi, je pense, et en ma sexualité totalement assumée.
Et toi, tu pars plus à l'automne?
Je pars en octobre, effectivement.
Ouais. Oui, qu'est-ce que tu vas rapporter en France?
J'ai envie de dire une nouvelle personne, parce que j'ai totalement changé, et je sens que je vais encore changer jusqu'à la fin de mon voyage. Et rien que le fait d'évoluer, je trouve que ça va être bénéfique, et c'est vraiment ça que je compte ramener, mon expérience.
Et un permis de travail pour revenir, peut-être?
Peut-être un peu plus tard.
Un peu plus tard.
Parce que malheureusement, le froid est... très très difficile.
Ah oui, ça c'est... oui, il faut s'habituer à ça. J'aimerais qu'on termine en parlant un peu de cette bibliothèque à livres ouverts qui fait partie du centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, qui est vraiment dans des petits locaux. Bon, il y a des projets d'un grand centre communautaire. Je ne sais pas s'ils vont déménager tout ça là-bas. Parlez-nous un peu de ce que c'est cette bibliothèque.
Alors, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque qui vit principalement grâce aux dons. En fait, on achète très peu d'ouvrages. On en a acheté pour cette collection, mais on n'a pas de financement d'État. Donc, c'est vraiment Christian Tanguay. Qui
est directeur général du centre communautaire, oui.
Tout à fait. Ce projet, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, puisqu'il avait une mission aussi d'archivage. Ils voulaient conserver le patrimoine et le transmettre. Ce qui fait qu'on remercie également les archives gays du Québec qui nous donnent énormément d'ouvrages, les particuliers qui nous donnent énormément d'ouvrages. C'est grâce à eux que tout ça existe. Donc, ce qui fait qu'on a des livres des fois extrêmement rares que des personnes ont depuis les années 80, qui ont été très peu édités ou qui ne sont plus édités. Donc, c'est ça, cette bibliothèque, c'est de conserver le patrimoine qui est principalement celui du public.
Et donc, cette collection, elle est disponible à compter du 22, il y a un lancement. Et si les gens veulent y aller y avoir accès, comment ils vont le faire?
Alors, pour l'événement...
L'événement, on sait que c'est le 22, il y a un lancement et tout ça, mais c'est, l'émission risque d'être diffusée ou entendue par les gens après l'événement. Alors, parlons pour aller à l'événement, ceux qui l'écoutent avant, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ceux qui l'écoutent.
C'est où, c'est quand et comment le lancement?
Le
lancement, c'est le 22.
Oui.
Pardon. À 19h le soir même au centre LGBTQ+ de Montréal.
Oui. Au 2075 rue Plessis, oui.
Au 2075 rue Plessis.
Oui. D'accord. Et si on veut, par la suite, les gens qui ne se rendent pas au lancement, qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'elles font pour voir cette collection?
Alors, c'est très simple. Le centre est ouvert toute la semaine. Du lundi au jeudi, de 14h à 18h, sauf le lundi de midi à 18h. Et donc, il suffit de s'inscrire, de devenir membre, contre une contribution de $30.
Ouais.
Et vous avez accès à toutes nos collections. Et vous pouvez emprunter les livres pendant un mois, les ramener, re-emprunter d'autres, comme une vraie bibliothèque.
Ben, merci à vous deux. C'était donc Quentin Legrave et Corentin Bouisset. Deux
merci.
Stagiaires qui sont au Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal et qui se sont... qui ont travaillé très fort pour mettre de l'avant une collection queer de l'Oural, de Balkans à l'Oural ou des Balkans à l'Oural. Et merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.